ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique.
Bonjour à tous, vous êtes sur RCF et vous écoutez votre émission de jazz préférée, comme à la radio. Et aujourd'hui, nous avons la chance, le plaisir, l'avantage, l'honneur de recevoir quelqu'un qui est à la fois musicien, dessinateur et un ami. Il s'appelle Jacques Ferrandez. Bonjour Jacques.
Bonjour Alex.
Alors... Jacques, on va aujourd'hui plutôt parler des aspects musiciens de Jacques Ferrandez, mais je sais que tu as aussi illustré des disques. Comment est-ce que tu arrives à mélanger ces deux activités de jazz?
Là, il faut d'abord être très clair, c'est que l'activité de musicien, elle est extrêmement marginale dans mon emploi du temps. Hein. C'est-à-dire que je suis d'abord et avant tout un dessinateur, un auteur de bande dessinée. Il m'arrive parfois de jouer de la musique, en l'occurrence de la contrebasse, un peu en fonction des circonstances des groupes qui se font, qui se défont, et de la manière aussi dont parfois j'arrive à cumuler les deux. Par exemple, quand j'ai fait les bandes dessinées autour de Miles Davis, donc là c'était l'occasion pour moi de remonter à un quintet et de jouer. Mais il y a parfois des périodes de 2-3 mois où je ne touche pas la contrebasse, quoi, ce qui n'est pas bien.
Et alors, comment est-ce que tu es venu à la contrebasse? Pourquoi la contrebasse? Pourquoi pas la guitare, l'harmonica, la trompette, le piano?
C'est-à-dire que quand j'étais petit, mon père m'avait mis au violon, il était lui-même violoniste, et puis ça m'a... Le violon, comme chacun sait, c'est un instrument très très ingrat, il faut énormément travailler pour bien jouer, pour avoir un beau son, etc., ce qui n'était pas le cas. Et j'ai eu une croissance assez rapide et je suis passé directement à la contrebasse, ce qui était proportionnel avec ma taille.
Oui, le violon, c'est surtout ingrat pour les voisins.
Oui, bien sûr, les voisins, la famille, j'avais des plaintes, donc j'ai décidé d'arrêter.
Et donc, tu parlais de Miles Davis. Alors, c'est pour ça que le premier orchestre s'appelait Miles Sabor.
Alors en fait, au départ, ça s'appelait Miles Sabor, comme les invectives bien connues du Capitaine Haddock. Et puis là, j'avais monté ce groupe à l'époque. Bon, j'ai passé une partie de... J'ai passé une dizaine d'années de ma vie à Paris. Donc là, j'avais eu la chance de pouvoir jouer. Je m'étais inscrit dans un conservatoire d'arrondissement qui, à l'époque, était dirigé, dont la classe de jazz était dirigée par François Janot, le saxophoniste. C'était juste avant qu'il prenne la direction de la classe du département de jazz du conservatoire national, enfin de supérieur de musique de Paris. Et ça fonctionnait comme un atelier. C'était une fois par semaine, je crois que c'était tous les jeudis après-midi. Et j'y allais très assidûment. Je restais de 2h, de 14h à 18h et je jouais là. Parfois, il n'y a pas de contrebassiste. Parfois, il y en avait un. Parfois, il y a un guitare-basse, etc. Donc, j'ai comme ça pu jouer beaucoup à Paris et monter un groupe. Et comme on était souvent sollicité dans des manifestations de bande dessinée, j'avais décidé de trouver un nom qui soit en rapport avec la bande dessinée. Donc on s'est appelé Miles Sabor, et le hasard a fait qu'ensuite, quand je suis redescendu ici sur la côte et que j'ai fait mon travail sur Miles Davis, le groupe qu'on a remonté à ce moment-là pouvait s'orthographier pratiquement de la même manière en Miles Sabor, sauf que c'est Miles Aboard. Donc on avait cette petite astuce pour garder le nom tout en s'adaptant, disons, au répertoire de Miles.
Donc tu as choisi pour commencer un morceau de Miles Aboard.
Oui, alors historiquement c'était Miles Aboard. Donc parce qu'à l'époque j'avais fait un livre qu'on avait accompagné d'un disque quand j'étais à Paris. Donc ça s'appelait Paris jour et nuit. C'était le saxophoniste de l'époque que j'ai un peu perdu de vue qui s'appelait Philippe Razol, qui avait écrit le texte et qui jouait dans l'orchestre. Et chacun avait composé des morceaux. Et mon morceau donc s'appelait Valse sans hésitation, et c'est celui-là, je crois, que nous allons écouter.
Eh ben, avec plaisir. Thank you. Jolie contrebasse, Jacques.
Et ça fait 20 ans que j'enregistre ça.
20 ans, mon Dieu.
192, je crois.
Alors, 20 ans, on a fait une émission avec un monsieur qui s'appelle Franck Taschini, qui joue dans la région. Est-ce que, par hasard, vous vous seriez connu ?
C'est une très vieille connaissance, puisqu'avant de partir à Paris, je suis parti à Paris en 84. Et deux ans plus tôt, j'avais suivi aussi un petit peu Non, pas les cours, parce que ce n'était pas vraiment des cours, mais les ateliers du conservatoire de jazz de Monaco. Et Franck était un des brillants musiciens de ces ateliers. Et je l'avais connu, en fait, avant, comme simple auditeur, parce que j'allais souvent écouter, justement, les concerts qui étaient donnés sur... Ça s'appelait Jazz on the Rocks, là, sur la jetée du port de Monaco. Et c'était donc le big band du conservatoire qui jouait là. Et Franck, il avait 20 ans à l'époque, moi aussi, je trouvais déjà qu'il jouait, il sonnait très, très bien. Et donc, le fait de... Bon, c'est lui, en fait, c'est un peu grâce à ça, je suis venu, je me suis renseigné. Donc, c'était tous les samedis. Donc, j'allais tous les samedis matins à Monaco. Et on a eu l'occasion de jouer ensemble à ce moment-là. Ce qui fait qu'à mon retour de Paris, en 93, je l'ai recontacté pour remonter ce qui était le Mille Sabords, les premières périodes de mon retour sur la côte, et on continue toujours à jouer ensemble.
Ah oui, et donc on vous a déjà entendu même taper le bœuf dans un lieu qui s'appelle le So What.
J'ai entendu parler de ça, oui.
Et ce serait peut-être le prochain morceau que tu as choisi ?
C'est-à-dire que quand on me demande évidemment quelles sont mes influences dans le jazz ou qui j'aime, évidemment on ne peut pas ne pas citer Miles Davis, et puis après ça on reparlera peut-être du travail que j'ai fait sur les bandes dessinées là, chez BD Jazz, autour de la biographie de Miles Davis. Et en effet, bon, je me suis dit l'occasion est belle de proposer ce morceau, parce qu'en plus ça, bon, c'est vraiment, s'il y a un classique dans le jazz, il fait partie peut-être des 5-10 disques vraiment qui sont devenus des grands classiques. Et notamment, j'ai choisi ce morceau parce qu'il y a une magnifique introduction de Bill Evans au piano.
Miles Davis, So What? Vous êtes sur RCF et vous écoutez votre émission de jazz comme à la radio. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur, l'avantage d'être avec quelqu'un qui est à la fois dessinateur et contrebassiste de jazz. C'est Jacques Ferrandez. Donc, il est dessinateur, mais dessinateur aussi autour du jazz. On vient d'écouter Miles Davis. Tu as commis des choses en dessin autour de Miles Davis aussi, autour du jazz.
Oui, alors autour du jazz, c'est une histoire ancienne parce que j'avais fait déjà il y a longtemps une histoire avec un auteur de polar qui a été ensuite directeur de la série noire, qui est Patrick Reynal, et qui était un vieux copain. Et on avait des goûts communs pour la bande dessinée et le jazz. Il m'avait écrit déjà un petit scénario d'une bande dessinée qui s'appelle Nostalgia in Times Square, donc qui était le titre d'un thème de Mingus, qui est une histoire qui se passait à New York avec un jeune musicien français qui débarquait, qui se faisait voler sa contrebasse, etc. Donc j'ai toujours aimé mélanger les deux. Et puis là, l'occasion m'en a été fournie là, dans les années 2000, parce qu'il y a le label BD Jazz avec Bruno Théol qui m'avait proposé de rejoindre un peu cette collection. Et comme Miles Davis n'avait pas encore été pris, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et j'ai fait en fait deux épisodes, un en 2006 et un en 2008. Donc c'est l'histoire, enfin le principe c'est assez simple, c'est une vingtaine de planches de bande dessinée avec deux CD, généralement sur des compiles, enfin sur des voilà, par rapport à l'histoire des droits d'auteur, il faut attendre 50 ans, etc. Donc c'est toujours des morceaux, disons, un peu plus anciens. Donc en 2006, on avait des morceaux jusqu'à 56, et en 2008, des morceaux jusqu'à 58. Et j'ai fait donc comme ça deux épisodes biographiques sur Miles. Et l'idée, c'est qu'après ça, évidemment, j'ai relancé, c'était l'occasion inespérée, de relancer un groupe qui permettait de faire des signatures, dédicaces, concerts avec ses albums. Et là, j'ai eu le très grand privilège et la chance et le bonheur de jouer avec François Chassanit, qui était donc le trompettiste du quintet pendant ces deux périodes.
François Chassanit, qui lui aussi venait jouer au Sowat.
Et oui, donc, comme quoi.
On est quand même entre amis, mais surtout avec d'excellents musiciens. Et excellent musicien, tu as choisi aussi quelque chose de sympathique comme troisième morceau.
Alors on parlait de Bill Evans qui avait fait l'introduction là du morceau So What, et c'est vrai que en tant que contrebassiste, on écoute un peu ce qui se fait. Le contrebassiste, vous savez, il est toujours là. Il n'y a pas beaucoup de formations de jazz qui n'est pas un bassiste ou un contrebassiste, évidemment. Et il y a des contrebassistes qui ont marqué comme ça l'histoire du jeu de la contrebasse. Et là, on va entendre un morceau de Bill Evans qui s'appelle Vals for Debbie. Et le contrebassiste, c'est des sessions que tu as enregistrées au Village Vanguard en 61. Et là, c'est donc le contrebassiste qui est à ses côtés, c'est Scott LaFaro, disparu, trop jeune, mais qui a marqué le jeu de la contrebasse avec une technique absolument virtuose et qui a ensuite influencé pas mal de contrebassistes.
Vals for Debbie, Bill Evans, Scott LaFaro, Paul Motian. Thank you. Alors, Jacques Ferrandez, on a parlé de musique, on a parlé de dessin, mais on n'a pas trop parlé de toi, finalement. Est-ce que tu peux nous raconter ta petite enfance ?
Ça va être long. Non, en fait, très vite, donc, je suis né en Algérie et j'ai consacré une grande partie de mon travail d'auteur de bande dessinée à cette histoire-là, c'est-à-dire la conquête, la colonisation, la période coloniale et l'indépendance. J'ai fait une dizaine d'albums sous le titre Carnet d'Orient. C'est l'essentiel, disons, de mon œuvre considérable. J'ai fait plein d'autres choses. Puisqu'on est ici à Nice, j'ai fait mon premier album en solo, ça s'appelait Arrière-Pays, et c'était une espèce de BD reportage, on appellerait ça comme ça aujourd'hui, sur la vie rurale en Haute-Provence, enfin un peu aux confins entre les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var. Enfin, c'est quoi un petit peu, à l'époque, qui était assez déshérité, qui était soumis à l'exode rural. Ça m'intéressait beaucoup de raconter ça. Tout le travail sur l'Algérie est venu après, et puis là, tout récemment, là, cette année, enfin en 2013, j'ai fait l'adaptation de L'étranger d'Albert Camus chez Gallimard, là, qui est paru en avril et qui accompagnait, disons, le centenaire de la naissance de Camus. Donc il y a cette naissance en Algérie, puis j'avais dit tout à l'heure, mon père m'avait mis au violon, mon père était... Et donc, était pied noir, on peut dire ça comme ça. Il avait étudié le violon quand il était petit au conservatoire d'Alger. Il avait eu un prix, etc. Mais ensuite, la guerre est arrivée là-dessus. Et le jazz est arrivé. Donc, il adorait Stéphane Grappelli. Et il jouait un peu de cette façon-là. Ce qui fait que j'ai toujours entendu du jazz à la maison. Et même mieux que ça, j'ai même vu des musiciens de jazz à l'époque des débuts de la Grande Parade. J'avais un oncle, le frère de mon père, qui était un fan absolu de jazz, qui venait d'Avignon et qui connaissait tous les musiciens. Il était allé plusieurs fois à New York et donc il les invitait à l'appartement à Nice pendant la période du festival de jazz. Certains afters se faisaient à la maison. Donc j'ai vu comme ça des musiciens qui débarquaient. Mon père était vraiment tout content de pouvoir jouer quelques mesures avec eux.
Belle histoire. Alors, pour illustrer cette belle histoire, qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau maintenant ? Donc, tu as choisi Charlie Haden.
Oui, parce qu'évidemment, on parle de contrebasse. Alors, il y a Scott Lafaro qu'on entend en fond, qui est extrêmement virtuose, qui a donné naissance à des Eddie Gomez, des Mark Johnson et des Patti Tucci aujourd'hui, des gens qui sont absolument phénoménaux à la contrebasse. Et moi, qui ne suis pas un grand technicien, j'aime beaucoup écouter un bassiste qui a peut-être des moyens techniques un peu plus limités qu'est Charlie Haden, mais parce qu'il a un son, il a une sensibilité par rapport à ce qui se passe autour de lui dans les formations dans lesquelles il joue. Et lui-même fait partie un peu de l'histoire du jazz. Il a joué avec tout le monde, hein, Charlie Haden. Mmh. Et là, j'avais choisi ce disque où il joue avec un pianiste italien que j'aime beaucoup, qui est Enrico Pieranunzi. Et notamment un morceau qui s'appelle Je ne sais quoi, qui est une composition d'Enrico. Et l'an dernier, il est venu faire une masterclass ici à Nice, Enrico Pieranunzi, et j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner sur ce morceau, et puis sur quelques morceaux de Bill Evans aussi, comme Very Early. Et voilà, je tenais à écouter ce morceau qui me rappellera de très bons souvenirs. Voilà. Thank you.
Le temps passe vite, le temps passe trop vite.
Chanté ce morceau.
Avec Jacques Ferrandez, et ça passe trop vite, mais nous nous retrouverons de toutes les manières lundi prochain pour une autre émission comme à la radio. Donc une dernière question, Jacques. Le jazz, on dit souvent des standards ou de la création. Tu préfères jouer des standards ou des morceaux créé.
Non, ce qui est génial, c'est que dans les standards, c'est que c'est un langage universel. Des gens avec qui on n'a jamais joué, 3, 4, c'est parti, on peut jouer un morceau, il suffit de savoir dans quelle tonalité, et puis c'est parti. Donc ça, c'est le vocabulaire commun au jazz. Ce que j'aime, et moi, j'aime beaucoup, j'adore ça, entendre ce que font les musiciens d'un morceau, comment est-ce qu'ils le travaillent ou comment est-ce qu'ils l'interprètent à leur manière. Et là, on va entendre maintenant, pour finir, un trio, parce que j'aime beaucoup les trios de jazz, j'aime bien l'équilibre qui se crée. On a entendu tout à l'heure le trio de Bill Evans, l'équilibre qui se crée entre ces trois musiciens comme, comme sur un trépied, disons, avec l'équilibre parfait. Là, on va entendre le trio de Brad Meldow avec Larry Grenadier, qui est un contrebassiste que j'aime beaucoup. Brad Meldow a très très bien joué les standards, il compose aussi, évidemment, et puis il s'approprie certains thèmes, j'allais dire, du patrimoine beaucoup plus récent, des choses des Beatles, par exemple. Il a des magnifiques interprétations de chansons des Beatles. Et là, ce qu'on va entendre, c'est un thème de Radiohead, réinterprété donc par le trio, avec une très belle introduction à la contrebasse de Larry Grenadier.
Donc Brad Meldow, Larry Grenadier, Jeff Ballard, Knives Out.
Knives Out, oui.
Merci Jacques Ferrandez. Au revoir, auditeurs de RCF. À lundi prochain.